Vous écoutez, on lit pour vous.
10 choses qui fonctionnent dans le monde. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Dernièrement, j'ai dressé la liste de 10 choses qui fonctionnent au Québec. Vous m'avez dit que ce genre d'article vous plaisait et tranchait avec le côté souvent négatif des nouvelles. Ça m'a donné l'idée de vous parler de 10 choses qui fonctionnent dans le monde. Mon but n'est pas de nier ou de minimiser ce qui va mal, mais on arrive tous à nommer ce qui va mal. On n'arrive pas à nommer ce qui va bien. Voici donc une liste de 10 choses qui fonctionnent dans le monde. 1. L'énergie solaire explose. Je suis en train d'écrire un article plus complet sur le sujet, mais c'est impossible de parler de ce qui va bien dans le monde sans parler de l'énergie solaire, dont la popularité surprend même les experts. Un exemple. Il s'est installé presque autant de capacités de génération d'électricité par panneau solaire en 2024 qu'il en existait au complet sur la planète en 2020. Et les prochaines années devraient être plus favorables encore. 2. Le monde n'est pas à court de minéraux. On entend souvent dire que la transition énergétique est une bonne idée, mais que les réserves des minéraux pour le faire sont insuffisantes. Par exemple, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'industrie des batteries requièrent de grandes quantités de lithium, de cobalt, de cuivre, de graphite et de nickel. Or, le tableau est complexe, mais les scénarios les plus probables montrent que les réserves de ces minéraux sont suffisantes pour permettre la décarbonation de l'économie. Il n'y a généralement pas de signe de pénurie dans le domaine des minéraux. Malgré la croissance continue de la production, les réserves économiquement viables ont augmenté, signale l'Agence internationale de l'énergie, AIE. 3. Les inégalités économiques en déclin aux États-Unis. Depuis la pandémie, le groupe qui a le plus profité de la hausse de sa valeur nette aux États-Unis est celui des travailleurs les moins fortunés. Une nouvelle étude conclut que les 2/5 de l'augmentation des inégalités salariales vécues au cours des 4 dernières décennies aux États-Unis ont été annulées depuis la pandémie. 4. Les prix des vols d'avion diminuent. On a beaucoup parlé cette semaine d'Air Canada, qui fera payer les bagages de cabine en classe économique. Cela fait oublier à quel point le coût d'un billet d'avion a diminué au fil du temps. Par exemple, un vol d'Air Canada Montréal-Paris coûtait 448 $ au mois d'avril 1992. En dollars d'aujourd'hui, cela équivaut à 860 $. Le même vol en avril 2025 coûte 655 $, une réduction de près de 25 % en 33 ans. On peut parler de l'impact sur le climat des vols, mais prendre l'avion est beaucoup plus abordable qu'avant. 5. Abus d'alcool en baisse chez les jeunes. Les jeunes abusent moins de l'alcool. Une nouvelle étude du gouvernement américain a montré que l'abus d'alcool chez les personnes âgées de 18 à 25 ans est en diminution marquée depuis 20 ans. En 2023, Statistique Canada avait enregistré une tendance similaire chez les jeunes Canadiens. 6. Les ados américains fument moins de marijuana. Parlons d'abus. Le pourcentage d'adolescents américains déclarant consommer de la marijuana a chuté de manière importante ces dernières années. Ce taux est passé de 23,1% en 2011 à 15,8% en 2021, selon une vaste étude sur plus de 88 000 adolescents de la Florida Atlantic University. 7. 9 pays d'Afrique ont doublé leurs revenus depuis 1990. 9 pays du continent africain ont vu leurs revenus moyens, mesurés selon le PIB par habitant, doubler depuis 1990, une fois ajustés pour tenir compte de l'inflation. Il s'agit de Maurice, de l'Égypte, du Cap-Vert, du Ghana, de l'Éthiopie, du Rwanda, de l'Ouganda, du Burkina Faso et du Mozambique. Cette hausse a provoqué une amélioration du niveau de vie. Le pourcentage de personnes vivant en situation d'extrême pauvreté, de même que la mortalité infantile, sont en déclin dans chacun de ces 9 pays, écrit Max Roser, auteur de l'analyse du projet de recherche Our World in Data. 8. L'Ukraine nourrit l'Afrique. Au début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en 2022, le spectre d'une famine mondiale monopolisait l'attention. En 2024, l'Ukraine estime avoir livré près de 20 000 tonnes de maïs au Malawi dans le cadre du programme humanitaire Grain from Ukraine, mis sur pied par le Programme alimentaire mondial des Nations unies. Ce grain soutiendra plus de 863 000 ménages en situation d'insécurité alimentaire aiguë en raison de sécheresse. 9. Les véhicules de chantier s'électrifient. L'époque où les véhicules de chantier brûlaient du diesel polluant tire à sa fin. Le constructeur américain HEVI vient d'annoncer l'arrivée d'une chargeuse sur pneus 100% électrique, la plus grosse du genre offerte sur le marché nord-américain. Le véhicule de 48 000 livres est muni d'une batterie lithium-fer-phosphate, plus durable et moins coûteuse que les batteries traditionnelles au lithium. 10. Les prix des maisons ont chuté de 19 % à Toronto. L'une des villes les plus chères du monde devient plus abordable. Après des années d'inflation immobilière plus élevée que la hausse des revenus, les prix de l'immobilier baissent à Toronto. Les prix ont chuté de 19 % depuis 2022, selon l'indice de référence de la Chambre immobilière régionale de Toronto, TRREB. Une bonne nouvelle pour le niveau d'endettement des nouveaux acheteurs. C'était 10 choses qui fonctionnent dans le monde, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Jocelyne Cazin, on s'améliore ou on se détériore. Une chronique de Jocelyne Cazin parue le 4 novembre 2024 dans Avenue.ca. Me voilà assise à ma table de travail et j'entends résonner dans ma tête la voix de Françoise Hardy qui chantait si bien « Ma jeunesse fout le camp ». Elle n'avait pourtant que 23 ans. À presque 74 ans, ça fait déjà quelques bonnes années que je ne me demande plus si ma jeunesse fout le camp. Mais je considère qu'avoir encore la capacité de vous écrire ma relation avec la vieillesse est un immense privilège. Et oui, vieillir, c'est avoir le privilège de voir passer le temps. Cela me dérange-t-il de vieillir? Un jour, j'ai entendu à la radio la célèbre actrice française Jeanne Moreau répondre à cette question de l'intervieweur. « Vous, Madame Moreau, qui avez incarné la jeunesse, la beauté, la grâce, ça ne vous gêne pas de vieillir ?» De sa voix éraillée par trop de cigarettes, Madame Moreau lui répond du tac au tac. « Moi, monsieur, je ne vieillis pas, j'avance en âge. » Depuis ce temps, j'ai moi aussi cessé de vieillir et ça me dérange un peu moins. Illusion, illusion, quand tu nous tiens. Cela dit, je reconnais que plus les années passent, plus je cours après le temps, qui file franchement trop vite. J'ai horreur du vide, je l'admets, donc mon agenda depuis ma retraite de TVA en 2008 est assez bien rempli, merci. Je me suis bien organisé, je crois, pour ne pas avoir de temps mort. Ce moment viendra bien assez vite. Pour l'heure, je préfère croire que la vieillesse ne rôde pas encore autour de moi, quoique, pour reprendre une expression populaire, je fais maintenant partie des « tamalous ». Eh oui. Non, ce n'est pas un club africain. T'as mal où, aujourd'hui? L'arthrose qui s'installe insidieusement dans mon corps sans y avoir été invité se révèle être un signe de vieillissement. Il est effectivement rarissime d'entendre une personne de 50 ans ou moins se plaindre de cette affection qui touche plus de 1,2 million de personnes au Québec, dont une majorité de personnes de 65 ans et plus. À mon âge presque vénérable, les coups de pied au derrière ont fini par me faire suffisamment mal pour que je comprenne enfin qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il y a trop de temps perdu. Oui, je sais que je vis sur du temps emprunté, ayant trop souvent abusé des bonnes choses, mais parce que la vie m'est encore clémente, j'essaie d'être plus généreuse envers moi-même. Je suis sobre d'alcool depuis un peu plus d'un an, ce qui, sans aucun doute, me permet de faire mes longueurs de piscine, de jouer au golf et quoi encore. Je reste active autant que faire se peut, car je suis très consciente que sans exercice, mon corps va s'ankyloser et par conséquent, ma tête et les nombreux hamsters qui s'y baladent risquent de me jouer un sale tour. Quand on me jalouse parce que je joue au golf, que je pars en vacances, que je vis en Floride, je réponds avec le sourire, « Vous savez, il y a quelques avantages à vieillir, surtout si on est en bonne santé. » Soyons réalistes, le corps n'exulte plus comme avant. Toutefois, si on se détériore physiquement, l'avantage d'avancer en âge, c'est aussi d'avoir la possibilité de s'améliorer intellectuellement, mentalement. Même si je crois que, fondamentalement, on ne change pas, la personne que vous lisez actuellement a la ferme intention d'être sur la voie de l'amélioration. On s'améliore ou on se détériore. D'ici à la fin de mon mandat sur cette terre, j'aspire à être une meilleure personne. Je prends donc les moyens à ma disposition, je m'en sers comme des outils qui contribuent à être une version 2.0 de l'humain, soit plus équilibré, plus épanoui, moins stressé, moins angoissé. Mais rien n'est parfait, même pas moi. Je dois parfois respirer par le nez, faire une méditation spéciale pour ne pas grimper dans les rideaux, comme on dit. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui nous rend plus sages, mais il est vrai que je choisis mieux mes batailles depuis quelques années, parfois avec de l'aide extérieure. Pourquoi pas? Et avancer en âge, si on en a envie, c'est aussi prendre le temps d'être plus souvent au service des autres. D'ailleurs, un petit tour dans les associations de bénévoles m'a fait voir une grande majorité de cheveux gris à l'œuvre. Bien sûr, les retraités sont plus disponibles. Pourtant, j'avoue que je n'ai pas attendu l'âge de la retraite pour bénévoler. C'est probablement l'exemple de ma mère qui m'a incité à dire oui plus jeune lorsqu'on me sollicitait pour telle ou telle cause. Ai-je peur de mourir? Ces temps-ci, ce n'est pas la peur qui m'habite, mais la tristesse de voir partir deux amis qui avaient mon âge, mais pour qui la vie leur a glissé sous les pieds. La vie est parfois injuste, mais inévitablement. Plus j'avancerai en âge, plus la faucheuse viendra m'enlever des êtres que j'aime. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui, je vis comme si c'était le dernier jour de ma vie. Parce que, oui, j'ai cette chance inouïe, soit celle de vieillir. Après tout, la vieillesse ne devrait pas être une malédiction. C'était Jocelyne Cazin. On s'améliore ou on se détériore. Une chronique de Jocelyne Cazin, paru le 4 novembre 2024 dans avenue.ca.
Vernissage d'œuvres autochtones, un projet culturel au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 30 octobre 2024 dans Le Citoyen. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a récemment inauguré un vernissage d'œuvres collaboratives autochtones, mettant en lumière la richesse et la diversité des cultures autochtones à travers des créations artistiques originales. Deux œuvres sonores, fruits d'un projet de médiation culturelle réunissant étudiants du cégep et artistes, ont été dévoilés pour découvrir et promouvoir la culture autochtone. Les chansons ont été composées par Jérémy Kistabiche, compositeur et producteur, accompagné d'Annie-Joëlle Goulet, artiste-interprète. L'objectif est de faire rayonner la culture autochtone entre nos murs, mais particulièrement de créer des moments de partage afin de mieux se connaître. Cette connaissance de l'autre permet un rapprochement et une sécurisation culturelle qui se créent naturellement, mentionne Christine Desrosiers, conseillère pédagogique au développement des programmes autochtones, dans un communiqué de presse. Ce vernissage s'inscrit dans un effort plus large du Cégep pour promouvoir la culture autochtone et renforcer les liens entre les différentes communautés, tout en créant des espaces inclusifs où les voix et perspectives autochtones sont valorisées et intégrées dans les milieux. Collaborer avec les étudiants a été une belle expérience créative. Leur ouverture d'esprit et leur détermination ont beaucoup contribué au succès du projet. Leur participation a permis de créer des liens entre nos cultures et nos façons de penser, nous mentionne avec enthousiasme Jérémy Kistabiche, artiste, compositeur et producteur. Pour immortaliser ces échanges, une affiche a été créée rassemblant les mots-clés choisis par les étudiants. Réalisée par Karine Gaudreau du Cégep, cette œuvre visuelle reflète l'essence du projet et sera exposée sur les trois campus, symbolisant le lien entre l'art et la culture autochtone. Par ailleurs, les œuvres sonores seront conservées pour des événements autochtones au Cégep et serviront de trame sonore lors d'activités internes. En somme, le vernissage de cette œuvre représente une avancée vers une inclusion plus grande. C'était Vernissage d'œuvres autochtones, un projet culturel au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 30 octobre 2024 dans Le Citoyen.
De sérieuses lacunes en matière de soutien en santé mentale pour les jeunes adultes de la Colombie-Britannique, un texte de Natalia Kutsenko, paru le 10 septembre 2024 dans La Source. Un important segment de jeunes adultes âgés entre 12 et 24 ans peine à accéder aux services en santé mentale de la Colombie-Britannique. Pour preuve, une jeune femme de 18 ans de la ville de Richmond a récemment fait part dans les réseaux sociaux de son expérience troublante. 3 semaines d'attente pour un rendez-vous médical chez Foundry, un centre de soins spécialisé en santé mentale pour les jeunes. Un délai jugé inacceptable pour répondre à une crise urgente. Ce témoignage souligne les failles du système alors que la province est confrontée à une pénurie de professionnels capables de répondre aux besoins croissants des jeunes en détresse. Les maladies mentales chez les jeunes deviennent un défi croissant dans la province. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, les troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, les dépendances et les troubles bipolaires sont beaucoup plus fréquents chez les enfants et les jeunes, plus qu'on ne pourrait le penser. L'association estime qu'environ 14 % des jeunes souffriront d'une maladie mentale à un moment donné de leur vie, et entre 50 % et 70 % de certaines de ces pathologies peuvent se manifester avant l'âge de 18 ans. Le McCreary Center Society, une organisation à but non lucratif, mène des enquêtes quinquennales dans les écoles publiques de la province. Lors de la dernière étude en 2023, à laquelle ont participé 38 500 élèves âgés de 12 à 18 ans, les résultats se sont avérés particulièrement préoccupants. Comparativement à 2018, les jeunes rapportent une augmentation de l'automutilation et un déclin important de leur santé mentale. Les programmes existants, des ressources limitées. Parmi les ressources provinciales, Foundry est un service clé pour la santé mentale des jeunes, offrant des consultations virtuelles et en personne pour les 12 à 24 ans, sans besoin de référence médicale. Cependant, une mère, Steph Woods, témoigne des limites de ce service. « Ma fille était admissible à parler à quelqu'un après une évaluation auprès de la Vancouver Coastal Health. Mais on nous a dit que la liste était longue. » Elle poursuit. « Nous espérions simplement obtenir un soutien financier, car les séances avec un conseiller privé me coûtaient environ 160 $ la séance, ce qui est beaucoup pour un parent monoparental, alors que la crise économique est en train de sévir à un rythme insensé. » Bien que Foundry permette une certaine accessibilité, le manque de suivi continu avec un même expert reste un obstacle pour de nombreux jeunes, surtout ceux nécessitant un soutien urgent. Les temps d'attente pour un premier rendez-vous avec un psychiatre peuvent aller de plusieurs semaines à un mois, un délai souvent insupportable pour des adolescents en crise. La situation n'est pas meilleure avec la Vancouver Coastal Health, une des 5 autorités sanitaires régionales de la province, où la liste d'attente pour consulter un conseiller peut atteindre 1 an. Ce manque de ressources est un problème systémique, comme le souligne Stacy Ashton, directrice exécutive de Crisis Center. Il y a une faille évidente dans le système de santé, notamment un grand manque de thérapeutes offrant des services gratuits et accessibles. Des améliorations nécessaires. Même si l'accès aux services de santé mentale s'est amélioré ces dernières années, permettant à de nombreux jeunes de trouver une écoute, il reste de nombreuses lacunes à combler. Stacy Ashton insiste sur le besoin d'un financement de la santé publique pour les services de consultation communautaire couverts par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique afin d'assurer un suivi plus régulier et accessible à tous. C'était « De sérieuses lacunes en matière de soutien en santé mentale » pour les jeunes adultes de la Colombie-Britannique, un texte de Natalia Kutsenko, paru le 10 septembre 2024 dans La Source.
Une première serre certifiée B Corp au Canada. Un extrait du texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 9 décembre 2024 dans La Presse. Le producteur de légumes Culture Gène V est devenu la première entreprise séricole au Canada à obtenir la certification B Corp, un sceau indépendant attribué à des entreprises respectant certains critères environnementaux ainsi que de gouvernance et de transparence. Cultiver des légumes toute l'année au Québec, ça veut dire chauffer des serres, utiliser de l'eau et de la terre, emballer ses produits et les expédier. Ces facteurs peuvent rendre l'obtention d'une certification comme celle de B Corp assez difficile à atteindre, mais d'autant plus pertinente à viser. Dès qu'on produit quelque chose, on pollue. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour limiter le plus notre empreinte écologique? Soulève Valérie Thérault, directrice vente et marketing de Culture Genevée. C'est elle qui a lancé le processus d'accréditation après avoir été inspirée par le parcours du fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, dont l'entreprise est aussi certifiée B Corp. Elle s'est penchée sur les centaines de questions contenues dans les formulaires, allant de la provenance de son fournisseur de potassium jusqu'à la composition du conseil d'administration, en passant par la quantité d'eau utilisée. L'utilité des emballages de plastique dans lesquels sont emballés les laitues a notamment été décortiquée pour voir s'ils étaient réellement nécessaires. Et le résultat n'a pas été celui auquel on aurait pu s'attendre. On démonise beaucoup le plastique, mais il y en a qui a une utilité. Ma laitue, je l'ai testée en vente en vrac. Et elle a duré 2 jours. C'est un légume trop fragile, explique Valérie Thérault. Dans la coque de plastique, elle se conserve de 14 à 21 jours. Elle diminue donc le gaspillage de la laitue, mais aussi de tous les intrants utilisés lors des étapes de production. 4 sites de culture. Culture Gène V, anciennement connue sous le nom de laitue Mirabel, compte 4 sites de culture à Amnor, à Portneuf, à Sainte-Clotilde et à Saint-Jérôme. Valérie Thérault est en train de reprendre l'entreprise familiale avec son frère Simon, directeur général, et son cousin Francis, directeur des opérations. En plus de sa laitue, Culture Gène V produit des concombres anglais et libanais, des poivrons et des tomates sur une superficie totale de 36 hectares. Ces produits sont vendus dans de grandes chaînes d'épicerie, même au sud de la frontière. 35% de sa production est exportée aux États-Unis. Voici quelques exemples de pratiques de Culture Gène V liées à l'obtention de la certification B Corp. L'eau utilisée dans les serres pour faire pousser les légumes est récupérée, traitée et réutilisée dans un circuit fermé, ce qui évite de contaminer les sols. Les plastiques agricoles, bâches, emballages de ballots de terre, sont revalorisés. Les légumes moches, dont les épiceries ne veulent pas, sont revendus ou donnés à des transformateurs alimentaires. Le chauffage par hydroélectricité ou biomasse, en utilisant des rejets de bois de scierie ou de chantier de construction, est favorisé par rapport au gaz naturel. L'obtention de la certification ne signifie pas que les efforts sont terminés. L'installation d'un filtre pour diminuer les polluants émis lors de la combustion de biomasse est notamment parmi les options explorées, tout comme le développement d'engrais à partir des feuilles des plants de concombre. L'aspect humain est aussi pris en compte dans le processus. Culture Gène V emploie 450 personnes, dont plusieurs sont des travailleurs étrangers temporaires qui viennent principalement du Guatemala. Leurs conditions de travail ont aussi fait partie de l'évaluation. J'espère que ça va inspirer d'autres entreprises de notre taille à le faire, parce que ce sont ces entreprises-là qui ont un impact sur l'avenir de demain, affirme Valérie Thérault. C'était une première serre certifiée B Corp au Canada, un extrait du texte de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 9 décembre 2024 dans La Presse.